Ici Francis Richard, nous sommes le 9 octobre 2009 et je vous parle de Suisse romande. Pourquoi la Suisse s'en sort-elle mieux que la France ? Depuis des années, la France est déficitaire. Elle vit à crédit. Elle tire des traites sur l'avenir. N'importe quel ménage ou n'importe quelle entreprise qui se comporterait ainsi serait mise en faillite. Cela dure depuis 35 ans. Les Français se sont habitués à cet état de choses. Ils ne pensent même pas que l'État, multiforme et monstrueux, puisse engendrer autre chose que des déficits. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il suffit d'aller sur le site de l'INSEE et d'admettre que les chiffres publiés ne sont pas faux. Ils enjoliveraient plutôt les choses. Le tableau des déficits publics français des 50 dernières années est éloquent. Le dernier exercice sans déficit remonte à 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu président. Depuis, il n'a fait que croître et embellir. En France, l'économie n'est pas le moins du monde libérale depuis bien longtemps, et l'interventionnisme de l'État est la règle, la liberté économique l'exception. Sous De Gaulle puis sous Pompidou, entre 1959 et 1973, deux exercices seulement sont déficitaires, 1967 et 1968. Mais le déficit ne représente alors que 0,3% et 1,1% du PIB respectivement. Aujourd'hui, de tels résultats feraient saliver les hommes politiques dotés d'un peu de jugeote. Mais comme ils sont tout sauf raisonnables, ils ne paraissent pas autrement effrayés par leur gestion calamiteuse. Et n'en vit pas l'époque où une saine gestion était encore bénéfique pour tout le monde. Le déficit budgétaire a atteint 3,4% en 2008 et devrait doubler en 2009. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la dette publique et que les prélèvements obligatoires aient tous deux augmenté. La dette publique n'étant rien d'autre qu'un impôt différé dans le temps. Si l'on en croit l'INSEE, la dette publique française est passée en 20 ans de 1978 à 2008 de 21,1% à 67,4% du PIB. À la fin du deuxième trimestre de 2009, elle atteint même déjà 73,9% du PIB, plan de relance inutile, sans réelle diminution des dépenses, d'un total de 65 milliards d'euros oblige. Et ce n'est pas fini. Sur la période qui va de 1980 à 2008, le poids des prélèvements obligatoires est passé de 40,1% à 42,8% du PIB, toujours selon l'INSEE. Ce qui veut dire que l'on a ponctionné davantage, mais que l'on a remis à plus tard le gros de l'effort pour éponger les déficits. Ce qui veut dire aussi que l'État n'a pas fait de cure d'amaigrissement et qu'il se porte mieux que les contribuables, présents et futurs, qui le nourrissent et qui l'engraissent. Les Français sont habitués au chômage depuis longtemps. Depuis 1982, son taux n'est pas descendu en dessous de 6,9% en 1982 justement. Il a culminé à 10,9% en 1997. Il est remonté à 9,1% à la fin du deuxième trimestre de 2009. Comme ils se sont habitués à l'augmentation continue de la dette publique, les Français n'imaginent même pas qu'un pays puisse connaître un chômage en dessous de 5%. Même quand l'économie repart, le taux de chômage reste élevé en France. La gestion catastrophique des finances publiques n'est pas seule en cause et responsable également une protection sociale coûteuse et démesurée. La quote-part des déficits publics suisses dans le PIB est tantôt positive, tantôt négative. Cela résulte du fait que le frein à l'endettement est inscrit dans la Constitution fédérale. L'article 126 pose comme principe que la Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes. Autrement dit, la Confédération doit équilibrer ses dépenses et ses recettes sur un cycle conjoncturel. Il ne peut pas y avoir de déficit structurel comme les keynésiens le préconisent. Il en résulte que l'endettement public, confédération, canton, commune, sécurité sociale obligatoire, est moindre. De 32,2% du PIB en 1990, il est monté jusqu'à 55,3% en 1998, redescendu à 41,3% en 2008, pour redescendre cette année encore à 40%. Malgré la récession, les recettes fiscales sont de ce fait contenues. Elles oscillent entre 31,2% du PIB en 1990 et 38,4% en 2003. Elles sont estimées à 37,2% en 2008. Comparées aux 65 milliards du plan de relance français, les trois phases, à la mode suisse, de mesures de stabilisation décidées et réduites par le Parlement helvétique, sur proposition du Conseil fédéral, paraissent bien modestes. 2,1 milliards de francs au total, soit de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, et c'est tant mieux. Comme je l'écrivais en avril dernier, les pays qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui auront le moins relancé. Enfin, prenons le dernier indicateur, qui est le taux de chômage. En 1998, le taux de chômage en moyenne annuelle était en Suisse de 3,9%. À partir de là, ce taux est descendu à 1,7% en 2001. Il est remonté en 2008 à 2,6%. Du deuxième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009, le taux de chômage est passé ici de 3,4% à 4,1%. Les conditions cadres de l'économie de la Suisse y sont pour quelque chose. Et puis, trop de protection sociale, comme en France, tue la protection. Comme on le voit, les meilleurs résultats obtenus par la Suisse ne sont pas le fruit du hasard. Même s'ils restent trop gourmands à mon goût, l'État y est bien moins rapace qu'en France, et c'est la raison essentielle pour laquelle la Suisse se porte mieux que la France, complètement à la dérive. Le dernier renforcement de l'État pourrait bien finir par achever cette moribonde, qui d'année en année recule dans les classements établis par le FMI et par Eurostat. Le PIB nominal est un indicateur trompeur, faussement rassurant. La France, mesurée à cette aune, est au 5e rang mondial et la Suisse au 21e. Classée par le FMI en fonction du PIB par habitant, la France se retrouve au 15e rang, alors que la Suisse est au 6e. Classée par Eurostat en fonction du PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat, la France figure au 22e rang et la Suisse au 4e. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout est dit. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.